Bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean. Et nous lirons au chapitre 4. Il est question d'une rencontre entre Jésus et une femme. Et même, je dirais, tout un village. Je lis. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse les Samaries. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, « me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem ? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? Ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Amen. C'est un passage qui contraste beaucoup avec un autre passage où il dit que Jésus ne fit aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens. Là aussi, il ne fit aucun miracle. Et pourtant, le sort de ce village va être bien différent. Nous avons là l'exemple d'un village qui va, je dirais, en grande partie se convertir simplement sur le fait d'avoir entendu Jésus. C'est merveilleux quand même à cette époque. Jésus, il a fait quand même beaucoup de miracles en Israël, en Galilée. Et dans cette contrée-là, Jésus ne fera absolument aucun miracle. Mais les gens vont croire quand même. Les gens vont croire sur les paroles que Jésus va dire et ils vont croire. Et c'est aussi quelque chose pour nous. Nous ne voyons pas forcément Jésus. Nous sommes là ce soir, nous ne sommes pas très nombreux, c'est vrai. Mais pourtant, comme ce peuple-là, nous pouvons avoir une bénédiction pleine et entière pour celui qui veut croire ce que la Bible dit. Amen. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Nous avons un premier contexte où Jésus est en Judée. Jean nous parle de justement qu'il fallait qu'il passe par Samarie. Il partait de Judée parce qu'il sentait que chez les Juifs et les pharisiens, il commençait déjà à regarder s'il ne pourrait pas le capturer parce que justement son ministère grandissait. Et ce n'était pas son heure. Alors, il a fallu qu'il parte. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même entre les Juifs et les Samaritains un gros, gros problème de communication entre les deux peuples, parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas toucher ce qu'un Juif ne touchera jamais, ce qu'un Samaritain a touché, parce que c'est considéré comme étant impur, parce que les Samaritains étaient très, très, très mal vus des Juifs. Et pourtant, Jean nous dit que Jésus est passé par Samarie. Tous les Juifs de l'époque, quand ils devaient se rendre en Galilée en partant de Judée, ils faisaient la route supplémentaire et contournaient tout le pays pour ne pas avoir à passer par Samarie. Jésus, lui, va traverser à travers champs, comme on dit. Il va passer par le pays. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Alors les Samaritains, qui sont-ils? Ce sont un peuple, on ne connaît pas bien l'origine, mais certains disent qu'ils étaient descendants de tribus d'Éphraïm et de Lévi, pour justifier le fait qu'ils appartenaient au peuple d'Israël, ils avaient la religion juive, entre guillemets. D'autres disaient que c'était le peuple assyrien au moment de la déportation qui était resté, qui s'était mélangé avec les juifs, et c'est en grande partie la raison pour laquelle ils étaient mal vus des autres juifs, parce que dans l'Ancien Testament, il était écrit que les juifs, il ne fallait pas qu'ils se mélangent. C'est aussi un enseignement qui nous sert à nous, chrétiens, notamment par exemple dans le mariage, où Dieu nous invite à ne pas nous mélanger, entre guillemets, parce que ne pas mettre que le couple qui est un, eh ben, soit une seule chair aussi dans la foi. C'est pour ça que quand on se marie, il nous est conseillé fortement dans la Bible de nous marier avec quelqu'un qui est converti, qui est chrétien. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, par rapport à cette situation, voilà, les Juifs et les Samaritains, ça n'allait pas du tout. Et Jean va nous montrer, justement, que Jésus, lui, il va passer au-dessus de ces choses. Il y a de bonnes raisons pour que ce soit Jean qui en parle, d'ailleurs. Parce que Jean, c'est le seul évangile où la généalogie de Jésus n'apparaît pas. Jean nous présente Jésus directement comme étant le Fils de Dieu. Prenez le premier chapitre de l'évangile de Jean. Jean nous présente Jésus comme la parole faite chair. Jean nous parle de Jésus comme étant Dieu sur la terre. Pas fils de juif, pas d'origine ailleurs. Jean nous présente Jésus comme étant le fils de Dieu. Un point la ligne. Je peux vous citer ces versets. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1 verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la terre et le ciel qui ont été créés par Dieu, par la parole de Dieu, elle est faite chair et elle est représentée par Jésus ici. La parole est Jésus. Jésus est la parole. Enfin, au chapitre 4, au verset 10, Jean écrit toujours, et là c'est Jésus qui parle, « Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Quand Jésus dit ça, il se présente à la femme, peut-être sous une manière encore un peu cachée, comme étant le Dieu, source de toute bénédiction, comme le Dieu créateur. Jésus se présente de cette manière à cette femme. Alors on voit que de par la racine de Jésus dans l'évangile de Jean, qui n'est pas présenté comme étant une racine juive, Jésus, fils de Dieu, un point c'est tout, il n'avait pas forcément de problème à passer par Samarie. On peut le comprendre sous cet angle-là. Et donc Jésus, lui, de son point de vue, de fils de Dieu qu'il était, on voit une chose très importante, c'est que Jésus ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes. On est tous pareils. Il nous aime tous d'un même amour. Il nous aime tous autant. Dans le livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre qui dit ceci. « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception de personne. » Parce que il est invité à ce moment-là à aller prêcher aux païens, nous maintenant. Et il reconnaissait là cette chose. L'apôtre Marc nous écrit aussi, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ça, c'est Jésus qui parle. Comme quoi Jésus, dans un certain sens, n'avait pas de notion de frère, de sœur, de même, de mère, de père. Jésus, étant fils de Dieu sur la terre, aimait tous les hommes, quels qu'ils étaient, quels qu'ils soient. Jean nous présente un passage où le fils de Dieu... Et il est important de regarder ce passage, d'ailleurs ce passage, il est intéressant parce qu'il est relaté que par Jean. Jésus, le Fils de Dieu, au milieu d'un peuple assoiffé. Il va passer près d'un puits. Le puits en lui-même, c'était un puits qui était très abondant. J'ai regardé dans le grec, par rapport à ce puits-là, c'était proche de source, une source d'eau. C'était un puits où il y avait beaucoup d'eau. D'ailleurs, le nom de la ville, Sichar, ça veut dire aussi ivresse. Ça nous parle aussi d'abondance. Et là, on est dans une situation qui est particulière parce que Jésus, il a commencé son voyage, il arrive à côté de Sichar, il arrive à ce puits de Jacob. Et l'Écriture nous dit, c'est Jean qui nous le dit, verset 6, « Là se trouvait le puits de Jacob, Jésus... fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. » Alors dans ma réflexion, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Parce que Jean, justement, lui, il est attaché à nous présenter Jésus, pas comme un homme, mais Jean, il est attaché à nous présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et comment Dieu serait fatigué? Dieu serait-il fatigué? Alors effectivement, on ne va pas dire ce qui n'est pas, parce que Jésus, c'était aussi Dieu incarné homme. Donc, il a eu une fatigue physique. Mais quand même, le fait que Jean le précise, alors que son but était d'annoncer Jésus, le Fils de Dieu, ça m'a intrigué. Donc, je suis allé voir l'origine du mot. Et là, j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est que quand il est dit qu'il est fatigué, ça veut dire qu'il était épuisé, donc par la circonstance, mais aussi... que ça peut se comprendre comme ayant un lourd fardeau sur le cœur. Jésus, qui est Dieu sur terre, et là, en ce moment-là, il est dans un pays où il sait qu'il y a des gens qui ont besoin de lui. Et là, il sait qu'il est au bon endroit, et il va s'asseoir au puits. Jésus est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, je crois qu'il est parmi nous. Et s'il est parmi nous, c'est aussi parce qu'il... il veut que tous nous soyons sauvés, que tous nous puissions lui appartenir, comme c'était le cas pour cette contrée. Jésus était certain que dans cette région, il y avait quelque chose de particulier qui allait se passer. Et c'est pour ça que Jean nous dit qu'il était fatigué, parce que quand on regarde à ce terme, il faut aussi comprendre un peu plus loin que le sens direct du mot, mais Jésus avait un réel fardeau. Jésus, il a un fardeau pour nous. Jésus, il connaît notre vie. Il sait nos problèmes. Il connaît notre vie par cœur, on ne peut rien lui cacher. Et parce qu'il nous connaît, il veut aussi nous sauver. Il veut nous sortir de des situations peut-être où nous sommes empêtrés, dans ces situations où nous sommes malheureux. On voit qu'au final, dans cette ville, il va y avoir un véritable réveil. On parle de réveil quand il y a beaucoup de personnes qui se convertissent d'un coup. Et c'est ce que disent les gens. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est maintenant le sauveur du monde. Jésus veut nous sauver. Et ce soir, le Seigneur Jésus n'a pas changé, et il veut aussi nous sauver. Alors on voit une situation où une femme va arriver, et Jésus va se révéler à cette femme, en premier. Alors cette femme, elle a quand même un problème, c'est qu'elle va chercher de l'eau à une heure de la journée qui est pas la plus facile. La sixième heure, la Bible nous dit, c'est midi. À midi pile, le soleil est à son zénith, et elle sort du village. Alors j'ai aussi fait quelques recherches, le puits il est pas à côté non plus, parce qu'il est quand même à 1 km, 1,5 km du village. Donc ça veut dire qu'elle a au moins toute cette distance à faire sous le soleil, avec sa grande cruche, et après revenir avec, en plein midi. Il n'était pas de coutume d'aller chercher de l'eau à ces heures-là. Les femmes allaient souvent chercher de l'eau soit le matin, à la fraîche, ou alors le soir, mais pas à midi. Cette femme, elle a un problème. Pourquoi cherche-t-il à éviter les autres ? Pourquoi cherche-t-il à rester dans un isolement ? On va voir que malgré cette attitude que cette femme a de vouloir s'isoler du monde, de ne pas vouloir rencontrer X et Y, mais Jésus va se mettre quand même en travers de sa route. Et pourtant, jamais Jésus ne va lui faire de reproches par rapport à ces choses. On voit aussi tout le tact de Jésus, parce qu'il va envoyer ses disciples aller chercher à manger. Et comme il sait que cette femme va aussi arriver, il va se retrouver seul à seul avec elle. Jésus va passer un entretien avec elle, va passer du temps avec elle dans le calme, dans la tranquillité, à côté de ce puits. Dans Isaïe, au chapitre 30, verset 15, il est écrit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il s'adresse aux gens d'Israël en disant, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » On va voir, comme on a pu le lire aussi, que c'est pas parce qu'il a eu cet entretien avec cette femme que tout est réglé. Il va falloir que cette femme elle ait une démarche avec Dieu, avec Jésus. Et Dieu peut nous permettre d'avoir un temps privilégié. Je vous encourage, si jamais vous avez envie de rencontrer Dieu, de justement faire comme cette femme, entre guillemets, de vous isoler dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et vous prenez une Bible, et vous vous placez devant le Seigneur, et là vous criez à lui. Vous pouvez lui parler directement, et Jésus vous entend. Et à travers sa parole, il peut vous répondre. Quelle que soit la situation que vous vivez, ce temps privilégié, c'est le temps favorable. C'est le temps, c'est le jour du salut, comme je viens de le citer. C'est ces temps où on se met à part devant Dieu et Dieu peut vraiment se révéler à nous. Et on va voir qu'avec cette femme, c'est ce qui va se passer. Alors, comment ça se passe ? Comment Jésus va-t-il procéder pour se révéler à cette femme ? Et quelle va être la réaction de la femme ? La première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va éveiller sa curiosité. Il est en Samarie. Physiquement, ça se voit qu'il est juif. Et il va lui demander à boire. La femme samaritaine, elle n'en revient pas, juste de ce qu'elle entend. Déjà, ça va l'intriguer, juste cette parole, « Donne-moi à boire ». Comment ça, un homme juif me demande à boire ? Et c'est comme ça qu'il va éveiller la curiosité de la femme, et ensuite la femme va, elle, de son côté, va pouvoir chercher aussi de son côté. Et c'est comme ça que souvent Dieu procède, c'est que à travers un message comme ce soir, à travers une circonstance, Dieu peut éveiller votre curiosité. Et après, c'est à chacun d'entre nous, quand on a notre attention qui est attirée par Dieu, d'essayer d'aller plus loin. Et Jésus va lui demander à boire. Et pourtant, juste après, on va voir qu'il va lui répondre que lui aussi aurait pu lui donner à boire. Après, lui, il ne parle pas en langage physique, il lui parle en langage imagé, parce que de sa position de fils de Dieu, il parlait de la vie éternelle. Cette femme ne l'a pas compris tout de suite. Mais c'est ce que Jésus voulait lui proposer, et c'est encore ce soir ce qu'il veut nous proposer à chacun, la vie éternelle. Et c'est un don gratuit. L'apôtre Paul écrit aux Romains, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ qu'on va pouvoir avoir la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ a à nous offrir. Après, ce don qu'il nous fait, ce n'est pas un don gratuit dans le sens où ça n'a rien coûté, parce qu'il en a quand même coûté la croix pour que Jésus puisse nous faire ce don-là. Jésus a dû souffrir pour nous, sur la croix, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. C'est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, comme on l'a chanté tout à l'heure, il n'y a de salut en aucun autre. C'est par Jésus-Christ qu'on peut avoir ce salut. C'est ce que Jésus essaye de dire à cette femme, mais elle ne comprend pas tout à fait. Jésus parle un double langage, et il va être amené à s'expliquer. Si on regarde dans la suite, et là c'est un point très important, mais là encore, Jésus parle toujours ce double langage, c'est ce qu'il faut saisir régulièrement dans les évangiles. Quand on lit, quand Jésus parle, il parle souvent un double langage. Verset 13, Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » De quoi parle-t-il ? Il est question d'un puits où la femme vient chercher de l'eau, et Jésus lui dit qu'elle aura encore soif. Évidemment, quand on a bu, il vient un moment où on a encore soif, effectivement. Mais c'est pas de ça que Jésus veut parler. Jésus veut parler justement de ce qui peut étancher notre soif spirituelle. Notre âme aussi a besoin de boire. Qu'est-ce que nous donnons à boire à notre âme ? Et c'est ça que Jésus veut dire. Est-ce que on n'en peut plus de penser, alors on se met tout le temps de la musique dans les oreilles pour ne pas penser ? Parce que quand on se retrouve dans le silence, dans la solitude, c'est insupportable. Est-ce que on s'abreuve à une source de séries télé, de films en tout genre, simplement pour s'évader, et toujours pareil, ne pas penser aux choses qui fâchent ? Est-ce que tu t'abreuves dans des choses comme l'alcool, par exemple, ou toujours tu t'abreuves dans l'alcool parce que, non pas parce que tu aimes forcément l'alcool, mais parce que ça te permet d'avoir une certaine joie, d'oublier certaines choses aussi. Et là, c'est encore ton âme que tu essayes de nourrir, de désaltérer. Mais force est de constater que là encore, la soif revient. Est-ce que tu es dans une situation où tu ne supportes pas d'être seul et tu multiplies les partenaires ? Tu vas avoir un tel, tu vas avoir une telle, et ça continue ? Et pourtant, il n'y a rien qui vient remplir ce besoin qui est dans ton cœur. Et je peux citer d'autres exemples, il y en a plein. C'est que quelques petits exemples, mais ça nous montre bien qu'on peut essayer sur la terre de chercher à boire un peu n'importe où, on aura toujours soif. On aura toujours soif. Parce que la vraie eau, c'est celle que Jésus veut nous donner. Et là, je parle aussi de l'eau de notre âme, de ce que Dieu, de ce que Jésus veut nous donner. Toutes ces choses vers lesquelles on peut aller pour combler un vide, on peut ne plus en avoir besoin. Parce que par Jésus, on peut avoir la paix qui nous réconcilie avec Dieu. Et tous ces besoins-là sont envolés parce qu'on sait qu'en Dieu, on a la confiance. On sait qu'en Dieu, il s'occupe de nous, qu'il veille sur nous. Ce n'est pas un père fouettard comme on a tendance à vouloir le faire croire, mais que c'est un père qui veut vraiment s'occuper de nous, jour après jour. Alors la femme commence à comprendre et elle demande à Jésus cette eau pour qu'elle n'ait plus soif. Et Jésus va commencer à lui donner à boire. Comment il fait ? Eh bien, il lui dit, va chercher ton mari. C'est une curieuse manière de donner à boire. Mais pour qu'elle puisse boire, il faut absolument qu'elle ait réglé une situation. On ne peut être réconcilié avec Dieu que si on se repent de ses péchés. Et là, cette femme, Jésus va mettre le doigt sur sa situation. Il va mettre le doigt sur cette situation. Cette femme qui avouera d'elle-même qu'elle n'a pas de mari. Alors elle cherche encore peut-être à cacher la vraie vérité. Elle se dit peut-être qu'il ne va pas deviner. Après tout, elle ne sait pas qui elle est en face d'elle. Et Jésus va lui montrer qu'il sait aussi. Jésus va pouvoir lui dire, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus va lui montrer, à chaque parole, vous regardez cette histoire, à chaque fois que Jésus parle, Jésus se révèle en tant que Dieu de plus en plus. C'est assez étonnant quand on regarde les paroles de Jésus les unes après les autres. À chaque fois, il y a un degré supérieur où elle peut se rendre compte que celui qu'elle a en face d'elle, c'est bien le Fils de Dieu. Et Jésus commence à lui révéler sa vie. Est-ce que c'est pour l'enfoncer qu'il lui révèle sa vie ? Non. Il n'y a d'ailleurs personne pour écouter. Jésus lui révèle sa vie pour qu'elle puisse ouvrir les yeux sur sa situation. Qu'elle ne pourra boire que si elle règle ce qu'elle a à régler. On ne peut pas espérer avoir le salut si on est dans une situation où on a des choses à régler par rapport à Dieu. Et c'est ce que Jésus veut lui faire voir. Enfin, cette femme se culpabilise aussi par rapport à sa religion, parce qu'elle sait que chez les Juifs, le vrai temple, il venait de Jérusalem. Et c'est Jésus qui le dit, le salut vient des Juifs, parce que Jésus est né d'une femme juive. Et les Samaritains avaient comblé le problème de Jérusalem en mettant un temple sur le mont Garizim. C'était une montagne qui était juste à côté. D'ailleurs, quand ils étaient en train de parler, ils la voyaient parce qu'elle y fait référence. Et là, il y avait un temple et les Samaritains s'y retrouvaient pour adorer. Et elle se retrouve justement dans cette situation où elle se culpabilise parce qu'elle connaît la vérité et elle ne la pratique pas. Elle est prête à demander pardon, mais elle sent qu'il y a aussi des choses qu'elle ne sait pas trop comment faire. Et Jésus, là encore, va montrer tout son amour et va lui montrer que il n'y a pas de problème, entre guillemets, parce que ce soit les Juifs ou les Samaritains, les deux étaient dans l'erreur. C'est ce que Jésus dit quand il est dit qu'il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Quand Jésus parle aux pharisiens, si vous lisez les évangiles, on voit souvent les pharisiens qui pratiquent la loi d'une manière incroyable, tellement ils sont rigoureux. Et pourtant, au niveau de l'esprit, il n'y a rien. Les Juifs, ils avaient un problème, c'est que les Juifs, ils pratiquaient une religion en espérant avoir un salut. Comme beaucoup certainement qui nous entourent ce soir. Tant de personnes ont une religion et espèrent en faire suffisamment pour espérer un salut. Mais Jésus dit clairement que c'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas d'avoir une religion comme les Juifs l'ont. D'un autre côté, il va montrer que les Samaritains sont dans l'erreur parce qu'il dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. La Samaritaine aussi, de son côté, se rend compte que, ok, chez les Juifs, c'était pas bon, mais les Samaritains, c'était pas bon non plus. Parce que les Samaritains, peut-être qu'ils étaient meilleurs dans leur attitude, mais ils n'étaient pas dans la vérité. Parce qu'ils n'étaient pas au temple de Jérusalem. Ils avaient peut-être la bonne attitude, on peut avoir la bonne attitude, mais si on est dans l'erreur, on peut être sincèrement dans l'erreur. Si vous prenez un train, c'est Gilbert Engenbach qui dit souvent ça, il fait des petites chansons, il a une chanson sur le sujet. Si vous prenez le train pour Marseille et que vous vouliez aller à Paris, vous avez beau être sincère, si vous vous trompez de train, vous vous trompez de train. Et on peut être sincère dans son cœur. Les Samaritains sont des gens sincères. On voit d'ailleurs dans les évangiles que quand Jésus parle des Samaritains, il voit une attitude de cœur qui souvent les Samaritains, quand Jésus en parle, c'est en bien. Le bon Samaritain, la femme samaritaine, le village de Sichar qui se convertit, alors que partout où Jésus va passer en Israël, il ne va pas y avoir ça. Les Samaritains ont une bonne connotation dans l'évangile. Mais on peut être sincère et être dans l'erreur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut être dans le vrai. Il faut suivre la parole. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Il faut que dans notre cœur, nous soyons aussi sincères. Il faut qu'en esprit, nous soyons aussi sincères. Il faut que dans notre cœur, nous soyons sincères. Il y a un verset dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 8, il me semble, qui dit que l'Éternel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde à notre attitude. Voilà qui va encore encourager cette femme. Parce que là, elle commence à se culpabiliser pour sa religion, et Jésus va la rassurer. Simplement, voilà, elle est en train de régler ce qu'elle a réglé au fur et à mesure. Et à un moment donné, elle ouvre tellement les yeux qu'elle se pose la question, mais est-ce que tu es vraiment le Messie? Est-ce que tu serais le Christ? Et là, Jésus va se révéler complètement par une dernière parole. Je le suis, moi qui te parle. Dans la version originale, littéralement, Jésus dit ceci, moi qui te parle, je suis. Ce qui est différent. Quand on connaît un peu l'histoire du peuple d'Israël, quand on connaît ce passage où Dieu se révèle à Moïse et quand Moïse demande, quand il va donner son nom, Dieu va dire « Je suis celui qui suis, je suis ». Et Jésus se montre comme tout à nouveau, à chaque parole qu'il exprime, il monte encore un peu plus dans la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Jésus dit encore une fois qu'il est Fils de Dieu. Cette femme, elle a eu sa vie révélée. Elle a eu la culpabilité qu'elle avait sur elle envolée. Elle se culpabilisait par rapport à sa religion et Jésus l'a rassurée. Et enfin, elle a l'assurance d'avoir rencontré Jésus, le Christ, le Sauveur du monde. Elle a une assurance. Elle a bu. Elle a bu l'eau que Jésus voulait lui donner. Et comme il était écrit, on pourrait presque dire que cette parole était prophétique. Le verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça va se réaliser sur le moment même avec cette femme. Cette femme qui vient au puits chercher de l'eau repart sans sa cruche. Jean a voulu le préciser. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment qu'on comprenne que c'était devenu secondaire pour elle. Et par contre, ce qui lui importait, c'était de révéler justement ce qu'elle avait trouvé à tous ceux qu'elle connaissait. Cette femme était dans l'isolement le plus total. Elle venait chercher de l'eau aux alentours de midi pour être sûre de rencontrer personne. Et voilà qu'à peine qu'elle a bu l'eau que Jésus voulait lui donner, qu'elle a un réflexe, c'est d'aller vers les autres. C'est merveilleux. Quand Dieu change un cœur, quand Dieu nous change, il nous change complètement. Cette femme a plus soif. Et dans sa joie, elle va vers les autres. Et elle devient une source de bénédiction pour tout son village. Jésus avait du travail dans ce village. Jésus voulait sauver. Et Jésus veut sauver encore aujourd'hui. Seulement, comme nous l'avons vu, il y a un prix à payer. Certes, en ce qui nous concerne, c'est un don gratuit parce que nous n'avons juste qu'à croire que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. C'est la Bible qui le dit. Mais Jésus a beaucoup souffert pour que ce soit possible. Jésus nous dit que voilà, on peut être samaritain. Les samaritains, c'était des gens qui étaient très mal vus en Israël. On peut être dans quelque situation que nous puissions être. Dieu nous accueille à bras ouverts. Jésus a vraiment entouré cette femme pour qu'elle puisse se convertir. Jésus a entouré cette femme pour qu'elle puisse boire. Et Jésus veut faire de même avec nous, nous entourer de ses bras d'amour pour que nous puissions le connaître vraiment et boire justement cette eau qui fait qu'après on n'a plus soif. Ce soir, que vous puissiez faire cette démarche, relisez cette histoire. Et à la lumière de ce que j'ai dit ce soir, rendez-vous compte qu'à chaque fois que Jésus parle, il se révèle toujours un peu plus. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre démarche avec Dieu, mais plus vous vous approchez de lui, et plus il se révélera à vous. Au départ, Jésus a montré des choses, n'a pas tout de suite dit à cette femme qu'elle était pécheresse parce qu'elle ne pouvait pas encore l'entendre. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approche de Dieu, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle règle, et ensuite Dieu va pouvoir vraiment la bénir. Et nous, si on a cette démarche de s'approcher de Dieu, Dieu ne va pas nous rejeter, il nous accueille à bras grands ouverts. Et au fur et à mesure, il va nous dire ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse vraiment être accepté, qu'on puisse nous approcher de lui encore plus. Et plus on s'approche de lui, et plus il se révèle à nous. Et ça, ça continue toute notre vie. Parce que plus on aime le Seigneur, plus on le cherche, plus on le découvre, et plus on a envie d'en connaître plus. C'est comme ça. Jésus, quand il nous parle, on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Et je vous encourage à relire ces choses et à faire aussi cet effort peut-être de vous isoler, de prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez vraiment rencontrer Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que ton désir, c'est que nous soyons réconciliés avec toi. Loin de toi l'idée que les hommes soient perdus. C'est vrai que tous ne seront pas sauvés. Et ça, tu en es le premier attristé. Mais Seigneur Jésus, pour notre part, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons régler, Seigneur, nos péchés, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour ta vie que tu as laissée. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es ressuscité le troisième jour. Et si nous avons cette espérance, c'est parce que tu es vivant, parce que tu es au ciel, tu entends nos prières, et tu nous écoutes, tu nous vois. Merci, Seigneur, de ton amour, Jésus. Amen.